Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant que l'universalisme a beau de prétendre, mais ce n'est pas vrai. Elle prétend que le monde entier sera sauvé. C'est ce qu'elle prétend en quelque sorte. Donc Jésus-Christ n'a pas racheté le monde entier, pas du tout. C'est eux qui le prétendent, les universalistes. Mais nous verrons, et nous avons déjà un peu vu, et nous continuerons de voir que c'est pas vrai. Donc, les rachetés du Sauveur peuvent-ils finalement périr ? Ça, c'est l'étude numéro 4. Je répète, les rachetés du Sauveur peuvent-ils finalement périr? Eh bien, maintenant, plus que jamais, notre examen doit être conforme à l'analogie de la foi. En effet, les passages que va produire l'universalisme contredirait positivement cette analogie. Quand ils disent qu'une âme à laquelle Jésus s'est uni, qu'elle peut toutefois cesser de lui appartenir. S'il signifie effectivement ce que des esprits peu attentifs ou trop peu éclairés d'en haut leur font signaler à ces universalistes. Il importe donc ici, très particulièrement, de se libérer de tout système humain et de bien se mettre à l'écoute de ce que dit la Sainte Parole et surtout toute la Parole. Mais avant d'entrer dans cette importante recherche de la vérité, je désire répéter une observation qui s'est déjà présentée. Pour ce qui me concerne, je n'ose ni ne peux me permettre de voir dans la parole du Seigneur deux déclarations en apparence contradictoires sans m'imposer, je dis bien, sans m'imposer le devoir de mieux étudier à fond cette sainte parole. Mon but en cela consiste donc en ce que ces déclarations parviennent à se concilier grâce à une vérité supérieure que mon esprit contemple et qui l'amène à adorer Dieu toujours plus. Certains de mes frères, ils voient dans l'Écriture sainte ce qu'ils pensent être deux assertions positives contradictoires. Comme par exemple, personne ne peut les ravir mes brebis de la main de mon père. Ensuite, ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Notez Saint Jean chapitre 10, verset 29 et 1 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Bien entendu, ça, ce n'est pas correct. C'est pas correct de sortir ce verset de tout son contexte. Aussi, s'il vous plaît, veuillez lire 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Pourquoi ? Pour beaucoup mieux comprendre ce verset 11. Oui, cela les amène à dire que tout en étant vrai l'une et l'autre, puisqu'elles sont tous les deux dans l'Écriture sainte, ces deux déclarations se contredisent l'une l'autre. Eh bien, je ne peux pas approuver cette conclusion. Et si jamais j'ai tort, qu'on veuille bien m'enseigner. Il y a donc là, voyez-vous, Que disent ces gens-là? Un mystère. Mais nous le disons aussi. Un mystère que nous ne devons pas nous mettre en souci de sonder. Celui qui nous a donné l'Écriture sainte nous l'a donnée telle qu'elle est, et il en connaît la raison. Qu'il nous suffise donc de répéter l'Écriture telle qu'elle est, sans vouloir la concilier, déclarant ainsi ce que Dieu dit, d'une part, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, et d'autre part, qu'il est cependant possible à celui qui les a reçus de tomber et d'être renouvelé et amené à la repentance. Notez bien Romains chapitre 11, verset 29 et Hébreux chapitre 6, verset 6. L'analogie de la foi concilie pleinement les dires de l'apôtre Paul, selon lequel l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, avec les propos de Jacques, quand celui-ci dit par exemple que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Romains chapitre 3, verset 28 et Jacques chapitre 2, verset 24. Je suis donc persuadé que pareillement dans toute autre traduction apparente de deux passages de l'Écriture sainte, une compréhension beaucoup plus précise de la vérité, cela fera disparaître cette divergence et va nous montrer alors que Dieu ne se dément jamais lui-même. J'ajoute à cela qu'il importe d'ordinaire de bien comprendre ce que dit le texte même de la Sainte Parole. Et c'est ici le premier devoir d'un serviteur qui est capable d'enseigner. Notez 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Quand un passage présente une opposition à quelque vérité fondamentale, il faut bien se garder de dire que le Saint-Esprit a ainsi parlé parce que ainsi le dit telle version. Ainsi, pour donner un seul exemple, nos meilleures versions disent, en Saint-Luc chapitre 9, verset 26, que le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Sur cette traduction, eh bien, l'universaliste fonde son erreur en y voyant à tort que Jésus s'est donc donné pour toutes les âmes de tout le monde, depuis l'Afrique à la Chine, depuis la Russie à l'Europe, et j'en passe, c'est-à-dire pour tous les hommes, sans aucune exception, que ce soit des crapules, des assassins, des violeurs, et j'en passe. Mais si le texte dit, comme je le pense qu'il le fait, eh bien le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, mais il est venu pour sauver des âmes d'hommes et non pas toutes les âmes des hommes de toute la terre. On voit aussi que l'universalisme ne peut plus s'en servir. Il est donc indispensable de s'assurer du vrai sens du texte, de crainte qu'un sens incomplet pourrait favoriser une fausse doctrine. Et croyez-moi, les fausses doctrines à la fin de la dispensation de la grâce dans laquelle nous vivons, il y en aura toujours plus. Ça, vous pouvez compter dessus. Malheureusement. Chers amis, en 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul lui-même déclare aux Corinthiens qu'il s'astreint à plusieurs devoirs, devoirs laborieux et difficiles à la chair, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même trouvé en quelque sorte désapprouvé ou non recevable auprès de Dieu. Ceci montre bien que cet apôtre, pour qui Christ était mort, comme il en avait la ferme conviction, pensait aussi qu'il lui serait finalement possible d'être rejeté de Dieu. En Apocalypse chapitre 3, verset 2, certainement pour cette même raison, Jésus-Christ ordonne à l'ange, avez-vous entendu, il ordonne à l'ange de l'église de Sardes d'affermir le reste des disciples qui est prêt de mourir. Il leur était donc possible de mourir, ce qui spirituellement parlant veut dire être perdu, quoique ils appartiennent à ceux pour qui Jésus était mort. Notez maintenant, s'il vous plaît, 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, un navire qui se met en mer, ayant Jésus lui-même pour but et pour port, peut cependant faire naufrage et se perdre entièrement. Notez maintenant Philippiens chapitre 2, verset 12, et la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Là, il est dit que chacun donc, même dans l'Église où il porte le nom de saint en Jésus-Christ, travaille à son salut avec crainte et tremblement, et qu'il s'efforce ainsi à affermir sa vocation et son élection, de peur qu'il ne vienne à déchoir et finalement à périr. Ceci est évidemment très sérieux. Notez maintenant Hébreux chapitre 10, verset 26. Il est dit là, il est écrit, quelque chose qui renverse absolument toute confiance présomptueuse. Il est dit que si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste pour lui, ou plutôt il ne reste plus pour lui, que l'attente de la perdition. Et encore, notez Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, là il est dit que l'homme dont il est question avait été éclairé. Il avait donc goûté le don céleste et avait eu part au Saint-Esprit. Il avait même goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, mais il est retombé et pour lui, il n'y a plus eu de repentance, puisqu'il a, pour sa part, crucifié de nouveau le Fils de Dieu. Il l'a donc exposé à l'ignominie. Ça, c'est très sérieux. Selon saint Jean, chapitre 15, versets 2 et 6, voilà donc un sarment qui était en Christ. Mais il a été retranché parce qu'il ne portait point de fruits, quoique il ait appartenu au cep. Il n'est pas demeuré en Jésus et en conséquence, il a été jeté dehors. Et n'oublions pas, Romains chapitre 11, verset 22, que le chrétien soit donc vigilant, est-il dit, de peur que ne demeurant pas ferme dans la volonté ou dans la bonté de Dieu, il ne soit aussi retranché. S'il est debout, qu'il craigne donc de tomber. On ne devrait pas lire ces versets et simplement hausser les épaules en se disant « on verra bien ». Oui, on verra bien, mais trop tard. Chers amis, ce que les textes ne disent pas, l'examen en détail de chacun de ces passages exigerait un long discours. Aussi, je vais me borner, pour commencer, à quelques remarques qui s'appliqueront de manière négative à eux tous, selon l'analogie de la foi. Cette analogie consiste en ce qui s'accorde avec le témoignage de Dieu, à savoir que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils bien-aimé. Ainsi, celui qui a le Fils a la vie. Cet homme a reçu l'esprit d'adoption dont il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. La vérité demeurera donc avec lui pour l'éternité. Et ainsi cette âme que Dieu a connue et aimée d'avance dans sa grâce, et appelée par une vocation efficace, il l'a aussi justifiée et il la glorifiera finalement dans le ciel, croyez-moi, la rendant irréprochable au jour de Christ. Ce sont donc là tout autant de déclarations évidentes que rien ne peut contredire ni même affaiblir. Notez tous ces passages que je vais vous citer et vous les lirez tranquillement, c'est important. Premier épître de Saint Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Romains chapitre 8, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14. Deuxième épître de Jean, verset 2. Romains chapitre 8, verset 28 et 29. Éphésiens chapitre 1, verset 19 et 20. Et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8 et 30. Vous savez, toutes ces indications bibliques ont un sens, et ça vaut la peine de les consulter. J'affirme donc, en me fondant sur le fait que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, qu'aucun de tous les passages qui vient de citer l'universalisme, pas plus que eux tous ensemble, ne renferme un seul mot de Dieu contre l'analogie de la foi chrétienne. S'ils en ont l'apparence, eh bien, ce n'est que pour qui ne les sonde pas. Ainsi, il est loin, bien, bien loin, d'y voir ou d'y avoir, comme on aime à le dire, un simple mystère entre eux et la vérité, pour ne pas être dogmatique et de tenir et enseigner les deux côtés. Oui, il faut enseigner les deux côtés, tout au contraire. Je suis donc persuadé, parce que l'universalisme est dogmatique et tient à son système, évidemment, qu'il est ici un peu aveuglé, comme dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, sans le vouloir ni s'en douter, il confond les choses communes avec les saintes. Chers amis, voici ce que les textes disent. En effet, nous nous interrogeons d'emblée sur ce que dit Hébreux chapitre 3, verset 14. Commençons par citer ce texte. Il est dit « car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Ce passage est donc loin de dire « vous serez faits participants de Christ, pourvu que vous persistez » ou en d'autres termes « vous ne serez sauvés qu'après l'avoir voulu » ou « après l'avoir vous-même accompli. » Mais que dit vraiment ce texte? Écoutez bien, il déclare que ceux qui sont devenus participants de Jésus-Christ retiendront fermement jusqu'à la fin l'assurance qu'ils avaient au commencement. Ça, c'est des chrétiens convaincus, pas des charlatans, pas des pseudo-chrétiens. Cela signifie que ceux-là seuls qui ont été unis à Christ persévéreront, qui vont persévérer dans la foi. C'est une autre manière de l'exprimer qui consiste à dire que nécessairement ceux qui sont vraiment, vraiment en Jésus-Christ, ils ne périront jamais. Donc, ce premier passage est donc très loin de s'opposer à la certitude d'un salut assuré aux élus par l'amour de Christ. Tout au contraire, il démontre cette certitude-là. Et je confirmerai cela au moyen d'une comparaison. Voyons, un orfèvre tient en main deux morceaux de métal qu'il va fondre. L'un et l'autre ont une belle couleur brillante, mais l'on sait que l'un d'eux est de l'or, tandis que l'autre n'est que du cuivre bien poli. Il sait en outre que ce l'or soutiendra l'ardeur du feu, car cette dernière doit évaporer le cuivre ou le réduire en oxyde. Donc l'orfèvre place les deux métaux, chacun dans un creuset, qu'il introduit dans un four en disant « Celui des deux qui conservera jusqu'à la fin sa substance d'origine sera reconnu pour être certainement de l'or. » L'orfèvre n'a donc pas dit « Su et cela aurait été une absurdité. Le métal qui soutiendra le feu deviendra vraiment, vraiment de l'or. » Il s'est donc contenté de déclarer un fait, c'est-à-dire à savoir que soutenir l'ardeur du feu, ça c'est le propre de l'or. Et la démonstration, oui, c'est la démonstration qui en va faire la preuve formelle. Tu deviendras donc participant de la nature de l'or, pourvu que tu gardes jusqu'à la fin cette nature-là. L'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Abandonner aussi la supposition que l'apôtre Paul appréhendait la possibilité de sa damnation. Et comprenez enfin qu'il n'a pas osé, il n'osa jamais ni dire ni penser qu'il puisse être désapprouvé devant Dieu, lui qui affirmait avec allégresse « je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là et ainsi rien ne me séparera de l'amour de Dieu en Christ. » 2 Timothée chapitre 1 verset 12 et Romains chapitre 8 verset 31. Mais il a dit cependant, c'est ce que reprend l'universaliste. Il l'a dit. Eh bien jamais. Me faut-il lui répliquer? S'il vous plaît, étudiez un peu mieux l'Écriture sainte. En effet, quel sujet Paul traite-t-il ici? Ici, il s'agit de celui de la charité et de la condescendance. Il vient de dire à ses frères qu'il ne veut point user à leur égard de ses droits matériels, il a raconté comment il s'est fait juif avec les juifs et qu'en mettant sans loi auprès des non-juifs, s'étant ainsi accommodé à la faiblesse des uns et à l'ignorance des autres. Cela, ajoute-t-il, je l'ai fait afin d'imiter au moins celui qui lutte pour une couronne corruptible. Moi qui porte les regards vers celle que me donnera Jésus. J'agis donc ainsi moi-même, c'est ce qu'il conclut, et je tiens mon corps assujetti et le mortifie, de peur qu'après avoir prescrit ces renoncements à mes frères, il s'avère que je ne les accomplisse pas moi-même. Ainsi mes frères, et non pas Dieu, pourraient me juger, pourraient me condamner et me dire avec raison, prêche-nous par l'exemple, médecin guéris-toi toi-même. Et voilà pourquoi l'apôtre se sert précisément du mot désapprouvé, ou plutôt, comme dit le texte, impur, de mauvais aloi. On appliquait ce mot à l'athlète que l'apôtre Paul prend pour modèle. Si l'homme avait pas assez suivi de régime, s'il était trop gras, par exemple, trop pesant pour la course, ou trop peu nerveux pour la lutte, eh bien l'homme était alors rejeté, écarté. Mais, il n'était point mis à mort, il n'était pas tué. Il lui arrivait donc, d'après le mot même qu'emploie l'apôtre Paul, qui réprouve l'or ou l'argent contenant trop d'alliage, comme n'étant pas de qualité suffisante. Il se sert également du même mot quand il invite ces mêmes Corinthiens à reconnaître en eux la présence de Christ et à voir aussi que ses ministres, ses pasteurs, sont approuvés de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 5 à 7. Il ne déclare point ici que celui qui n'est pas de pur aloi est hostile à la vérité, mais qu'en fait, il ne la garde pas entièrement. Le passage donc de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 est donc loin d'affirmer qu'un fidèle pense pouvoir être finalement réprouvé de Dieu. Il déclare tout au contraire que précisément la connaissance de son appartenance pour toujours à Christ pousse ce fidèle à prendre garde à ne pas recevoir la désapprobation de ses frères. Et l'universalisme ne peut donc pas non plus s'étayer à partir de ce texte-là. L'universaliste peut-il mieux s'appuyer sur un ordre que dans sa bonté, le chef de l'Église ne donne pas pour l'affermissement des personnes et des âmes, mais il le donne pour des choses, pour des vertus et des qualités spirituelles qui restent dans une Église qui est devenue faible et languissante. Et le Seigneur vient de dire à cette Église de Sardes que, pour l'instant, elle est morte, ce qui signifie qu'elle a bien l'apparence de la piété, mais qu'elle renie Dieu par ses œuvres. Notez Tite, chapitre 1, verset 16. Il exhorte donc celui qui la préside et en prend soin à confirmer, à nourrir et à raffermir le reste des œuvres de cette Église, car ce reste est aussi en danger de tomber dans la même mort. Or, de cet ordre-là, l'universaliste conclut que des rachetés de Jésus-Christ pourraient tous mourir. Mais il s'agit précisément de l'opposer. Puisque les œuvres de ces élus de Dieu sont vivantes par le Saint-Esprit, ainsi, celles qui sont menacées de mourir ou de s'éteindre sont et sont seulement les œuvres, je dis bien les œuvres de gens qui ont seulement le nom de vivre, c'est-à-dire des pseudo-chrétiens, sans cependant posséder la vie. Ici encore, mon frère à la position universaliste, c'est donc tout à fait mépris. Nous le savons tous, que dans toutes les églises du monde, tous ne sont même pas totalement sauvés et rachetés. C'est un fait. Il ne faut pas se leurrer. Cette conscience, quelques-uns, ils l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, selon 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Ils se trompent de nouveau quand ils voient dans ce passage-là la possibilité de naufrage dans la foi pour un chrétien, comme si la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, lisez Jude, verset 3, comme si cela pouvait être ôté. Évidemment, les hypocrites, les chrétiens d'apparence, simplement des chrétiens de mots, mais non pas de cœur et en bonne conscience, ils font finalement naufrage par rapport à la foi et non pas dans la foi. Voyez-vous, ces gens-là ressemblent aux disciples qui suivirent pour un temps Jésus, il y en avait, mais dont le cœur n'était pas droit envers lui et qui finalement l'ont quitté. Notez Saint Jean chapitre 6, verset 61. Ces gens, c'est ce que je dis, trouvent aussi que Jésus leur demande un renoncement qui est beaucoup trop exigeant. Retournons, comme l'ont fait Orpa, vers le monde et vers les idoles, c'est ce qu'ils disent. Retournons dans le monde. Allons fumer un joint, allons nous shooter, allons dans les discos. Notez Ruth, chapitre 1, versets 14 et 15. Ils font naufrage par rapport à la foi, ce qui signifie qu'ils n'y parviennent plus. Ils n'entrent pas dans ce port céleste et sûr, mais ils périssent loin de lui, dans la mer du monde, tout autant que Orpa est mort loin du peuple de Dieu. Mais il n'y a toujours rien en ce passage qui favorise au moindre égard l'universalisme. Mes chers amis, écoutez attentivement. La Sainte Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 26. Je répète parce que c'est important. Il est dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux, chapitre 10, verset 26. La même faiblesse, elle paraît, dans l'interprétation qu'il donne de ce verset. L'apôtre parle du mépris, un mépris volontaire, un mépris total de Jésus, d'une apostasie qui dure et qui est orgueilleuse et qui s'alimente à l'orgueil. l'orgueil qui avait violé la loi de Moïse, verset 28. Il ne s'occupe donc pas à ce point d'un péché ordinaire, si je peux le dire, d'un péché pour lequel le fidèle possède toujours, on possède toujours, notre avocat auprès de Dieu. Soyez rassurés, on n'est pas cuit, tout cuit d'un seul coup. C'est pas vrai. Notez la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Et il sait en revanche qu'il n'existe point d'autre sacrifice expiatoire que celui du Christ. Ainsi le pécheur qui par orgueil et par malice, repousse Jésus et veut s'en passer totalement, eh bien ne trouvera point d'autre sang pour laver sa souillure, ni d'autres abris devant le jugement de Dieu. L'auteur dénonce alors toute la terreur de ce jugement aux rebelles que l'universaliste veuille bien y prêter attention, qui se seraient ainsi dressés contre la grâce de Dieu et contre son Fils bien-aimé. Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon des péchés. C'est Matthieu, chapitre 26, verset 28. Comment celui qui croit en cela, comment peut-il donc encore imaginer que ce sang se soit répandu en vain, au point qu'une âme pour qui il coula puisse néanmoins ne rencontrer finalement que l'enfer et la colère à venir? Jamais, jamais, la grâce de Dieu et son amour sont beaucoup mieux que cela. Je répète, Jésus-Christ a versé son sang pour le pardon des péchés. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. Pour les péchés que toi qui écoutes as commis, comme pour les miens, il y en avait, j'en ai honte. Comme celui qui croit en cela, comment peut-il donc encore imaginer que ce sang se soit répandu en vain, au point qu'une âme pour qui il a coulé puisse néanmoins ne rencontrer finalement que l'enfer et la colère à venir? Jamais, jamais. Car la grâce de Dieu et son amour sont beaucoup mieux que tout cela. Il va sans dire, et cela se comprend, que le pécheur qui méprise totalement un tel souverain sacrificateur ne peut plus attendre que le jugement, il ne peut plus rien attendre que le jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. C'est pas moi qui le dis. Verset 27 de Matthieu, chapitre 26. Essayons de comprendre qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisque ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et qu'ils l'exposent à l'ignominie. Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. Donc, ce que a cette totalement, je veux dire par là, que cela est totalement de leur faute. Ce n'est donc plus la faute à qui que ce soit, c'est leur faute à eux. Il est donc impossible ici d'avancer que l'apôtre dise qu'on peut déchoir de la foi. Il ne prononce pas du tout ce mot. Cela lui est impossible, vu que la foi, c'est le don et l'opération souveraine de Dieu. C'est donc la foi à salut, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 9, et Saint Jean, chapitre 6, verset 47. Par conséquent, l'âme qui l'a reçu ne peut plus en déchoir. Dieu qui l'a donné ne la retire pas jamais. L'apôtre Paul dit par exemple que le peuple hébreu au désert a été assurément illuminé par la vérité céleste. Il a reçu les oracles et les révélations de Dieu alors que les autres peuples étaient laissés dans les ténèbres. Évidemment, chers amis, si l'homme en reste là, c'est-à-dire s'il persiste dans l'inimitié et dans l'endurcissement de son cœur, tout attiré qu'il a été autrefois vers Jésus, et tout modèle même qu'il se soit senti par les formes sensibles des choses spirituelles, cet homme pourra cependant déchoir de ces privilèges-là. À mon avis, il fera finalement comme Démas ou Orpah, ou comme font et feront toujours les hypocrites. Avec eux, il apportera la preuve que l'âme qui a vu, mais qui n'a pas cru, le don de Dieu, demeure devant Dieu comme cette terre qui, quoique arrosée du ciel et réchauffée par le soleil, ne produit toutefois que des épines et des chardons, selon le verset 7 et 8. Une telle terre, elle est donc rejetée, elle est tout près d'être maudite, et ce que Dieu dit, elle finira même par être brûlée. Chers amis, écoutez bien ceci. Elle était, par exemple, bien aussi en Jésus, visiblement et honorablement même, cette fameuse église de Laodicée à qui l'Esprit de Christ s'est adressé. Mais puisqu'elle n'était ni froide ni bouillante, eh bien, il l'a vomi de sa bouche. La vaste église d'Afrique du Nord d'autrefois, qui de son nombre couvrait tant de populations au premier siècle, se trouvait bien encore en Jésus selon les apparences extérieures et même avec une grande pompe, mais parce qu'elle s'était enorgueillie et avait totalement cessé de craindre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Où voit-on grandir et pousser sa grande et forte plante de nos jours? Si le Père l'avait plantée, ne serait-elle pas encore sur sa racine aujourd'hui, selon Saint Matthieu chapitre 15, verset 13? En effet, beaucoup de gens sont aussi en Christ, mais uniquement par la profession extérieure de l'Évangile, c'est-à-dire par des démonstrations nombreuses et soutenues même de la religion qui leur plaît. Le Seigneur Jésus les a avertis, et il les avertit encore, de manière solennelle, que si le sarment tient au cep seulement par l'écorce, il ne possède donc pas en lui la sève vitale, cette sève qui est le Saint-Esprit. Il ne produit point de fruits savoureux, mais seulement du verjus. Ce sarment-là, sera en conséquence finalement, évidemment, sera coupé et jeté au feu. L'apôtre n'a pas dit que celui pour qui Christ est mort et qui doute puisse finalement périr tout simplement, puisse finalement être maudit de Dieu et que ainsi l'œuvre de la grâce soit totalement détruite en lui. Mais les mots le disent, répond l'universaliste. Eh bien non. Non, les mots eux-mêmes ne le disent pas, qu'on prenne la peine un peu de s'en convaincre. Certainement, il est indubitable que l'expression employée par le Saint-Esprit dans le premier des passages, à savoir en Romains 14, verset 15, signifie perdre, signifie faire périr à jamais. C'est bien là le sens qu'elle a d'habitude, comme en Saint Matthieu, chapitre 10, verset 28, par exemple, où il est dit que Dieu peut faire périr, que Dieu peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais il est tout aussi certain que ce même Esprit Saint emploie ce même mot dans le sens d'être simplement égaré momentanément. Quand il dit par exemple aux disciples, par la bouche du Sauveur, allez, allez maintenant vers les brebis perdues, ces brebis qui sont égarées de la maison d'Israël. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 6. Oui, allez, allez vers les brebis perdues qui se sont égarées. Et rattrapez-les, allez les chercher. C'est Matthieu 10, verset 6. L'apôtre Pierre qualifie clairement ces brebis d'errantes ou égarées, selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25. Nous voyons la même chose en d'autres endroits. Par exemple, la brebis perdue n'était que égarée puisque son berger l'a retrouvée. Pareillement, la drachme perdue ainsi que le fils prodigue n'était que égaré. Il n'avait pas définitivement tourné le dos au Seigneur, à Dieu. Notez Saint Luc, chapitre 15, verset 6, verset 9 et verset 32. Le Saint-Esprit se sert encore de ce même mot pour parler d'un grand affaiblissement, d'une exténuation. C'est ce qu'il fait dire au fils prodigue au milieu des pourceaux. Rappelez-vous ce que nos versions rendent. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Saint Luc, chapitre 15, verset 17. Ce mot, je meurs, exprime bien ici un dépérissement douloureux, mais n'exprime nullement une mort, et encore bien moins une damnation éternelle. Jamais, jamais. Voyons maintenant la conclusion de tout cela. Voyez-vous, pour terminer cette quatrième partie de notre examen, je conclus donc que jamais ni nulle part la parole du Seigneur ne dit qu'une âme pour laquelle Jésus est morte pourra finalement être totalement perdu. Par conséquent, puisqu'il y aura au dernier jour, selon les propos même de Dieu, des âmes qui périront d'une perdition éternelle même, il est évident que le Seigneur Jésus ne mourra pas pour ces âmes-là, évidemment. De cela, je recueille avec certitude que la doctrine selon laquelle il est établi que le Sauveur a donné sa vie sur la croix pour tous les enfants d'Adam, ça c'est une doctrine d'homme qui repose en principe sur la négation de l'accomplissement parfait et de l'expiation par le Seigneur Jésus des péchés de tous ceux pour lesquels il fut maudit. Chers amis, nous arrêtons ici notre étude pour la reprendre demain matin, Dieu voulant. Ce sera l'étude numéro 5 ou le CD numéro 5. Et rappelez-vous, il est un fait que Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime tendrement. Il aime tous ceux qui un jour ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont compris, qui ont été assez humbles, c'est ça, de comprendre qu'ils étaient perdus par le péché, comme moi je l'étais horriblement, et ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Jésus les a tous rachetés par son sang précieux. Maintenant, sachez que Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous êtes maintenant, tout près ou au loin, je vous enlace tous et je vous embrasse avec amour. Et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Yahvé Dieu le Père, il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne pouvons pas comprendre, mais il y en a quelques-unes que nous pouvons concevoir et nous te rendons grâce pour celles-ci. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous devons si souvent, comme des brebis sans intelligence, nous écarter des sentiers de la paix. Pourquoi notre nature incline toujours à la folie, et j'ai connu cela, oh là là, pourquoi nous tendons continuellement vers le mal, mais nous sommes reconnaissants, au moins de tout notre cœur, de ce que nous savons quand nos pas ont manqué la piste. Ô Seigneur, merci de ce que tu ne nous abandonnes jamais. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi l'expérience d'autrui ne nous instruit jamais, lorsque elle témoigne pourtant avec évidence que le chemin des coupables est douloureux, que le fruit dérobé s'écrase en cendres sur nos lèvres et que nous moissonnons toujours comme nous avons semé. Mais au moins sommes-nous reconnaissants, très reconnaissants, de ce que jamais le péché ne nous satisfait, de ce que le fruit défendu n'apaise jamais la soif ni ne calme la faim. Nous sommes reconnaissants de ce que tout le clinquant et le brillant du monde ne peut finalement jamais nous tromper. Amen. Amen. Et chers amis, je voudrais, pour terminer, vous mettre un ou deux chants d'un lointain passé, 1960. Parfois ça fonctionne pas trop bien, il y a des ratés, et bien sûr, on peut dire que le son n'est plus tout à fait aussi parfait, mais essayons quand même.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra. Il a promis, je le crois.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Il a promis, oui, je le crois. Depuis 2000 ans,
2000 ans,
en tout pays, le monde attend,
il attend
sa parousie.
Le ciel, la terre, le soleil et la mer, la création attend ce moment.
Depuis 2000 ans,
2000 ans,
en tout pays, le monde attend,
il attend sa parousie.
Le ciel, la terre, le soleil et la mer, attends ce moment.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra.
Pour toi.
Je sais qu'il reviendra.
Pour moi.
Je sais qu'il reviendra.
Je sais qu'un jour le Seigneur reviendra.
Je sais qu'il reviendra. Il l'a promis, oui, je le crois.
Quand viendra le temps,
oui, le temps
de son retour,
retour.
Nous irons chantant,
oui, chantant
vers le grand jour.
Le jour J de son avènement, pour nous le plus grand événement.
Quand viendra le temps,
oui, le temps
de son retour,
son retour.
Nous irons chantant,
oui, chantant
vers le grand jour.
Le jour J de son avènement, pour nous le plus grand événement.
Sais-tu qu'un jour le Seigneur reviendra?
Sais-tu qu'il reviendra?
Pour toi.
Sais-tu qu'il reviendra?
Pour moi.
Sais-tu qu'il reviendra?
Sais-tu qu'un jour le Seigneur reviendra?
Sais-tu qu'il reviendra?
Seras-tu prêt ce jour-là? Ce jour-là.
l'aquarium. Quand Dieu est loin, la vie est belle. Tel un oiseau dépourvu d'aile. Dans la tempête, autour de soi mugit. Si Dieu est loin, qui entendra les cris? Mais quand Dieu est près, la vie est sûre. Car protégé, il nous rassure. Son bras puissant dans la tempête, à chaque instant, il ne se tient. Quand Dieu est loin, le temps s'empresse, on le voit bien, mais rien ne presse. Quand le temps passe, ce peut être demain. Si on dépasse, Dieu sera là.